Libéré. Oh, j'ai hâte au 8 août. Hein? Ça va être le fun, le 8 août. Et puis, on va être, apparemment, on va être dehors aussi. On va être dehors. Et puis, je ne sais pas si c'est des marégoins, mais je ne pense pas. Mais, on va être bénis. Et puis, on va se réjouir ensemble, tous ensemble, pas deux salles. Quoique, merci Seigneur, c'est une bénédiction qu'on a au moins deux salles. Mais on va être tous ensemble, Dieu voulant, ce grand jour-là qui s'en vient bientôt, très bientôt. Alléluia, Solange a chanté bientôt, très bientôt. Et puis, il y a des bonnes choses et des belles choses qui s'en vient parce que Dieu aime son Église. Amen. Gloire à Dieu. À votre santé. Amen. Bienvenue à vous tous. Et puis, je n'ai pas vu de nouveau visage. Quoique, il y a l'autre bord, il y a Lucie Chouinard. Elle n'est pas nouvelle, on la connaît. C'est la nièce du pasteur Mme Gagnon. Et puis, bienvenue à elle et son amie également qui est avec elle aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas, Lucie, veux-tu venir dire quelque chose? Veux-tu venir nous dire une salutation? Je sais que t'aimes ça tellement de venir et partager avec nous autres. T'es bienvenue à le faire, je suis sérieux, là. Si tu peux venir. Et je vais te donner une minute pour y penser. Amen. Entre-temps, on a quelques versets comme thème pour aujourd'hui avant d'aller à Romains 8, 28. C'est dans le psaume 34. Le psaume 34, et on va lire du verset 9 à 11. T'en viens-tu, Lucie? Le psaume 34, versets 9 à 11. Amen. OK, la parole du Seigneur nous dit ceci. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui la craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voyez combien l'Éternel est bon. Et en même temps, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont pas privés d'aucun bien. Puis, dans le psaume 119, verset 68, ça nous dit, « Tu es bon et bienfaisant. » En parlant du Seigneur, « Tu es bon et bienfaisant. » Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que tu es bon. Et quoi, Seigneur, que nous voyons pour un temps maintenant le ravage qui se fait à cause de la chute de l'homme, à cause de l'ennemi de nos âmes. Merci, Seigneur, qu'au travers de tout ça, tu es toujours bon. Et spécialement envers ton peuple, même si nous avons des tribulations et des épreuves, tu es toujours, toujours bon. Alors, Seigneur, nous te craignons ce matin, nous t'adorons, nous t'aimons, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu es un Dieu qui est bon. Bénis ta parole à nos cœurs encore ce matin, je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Et alors, nous savons, Et puis, ça fait quelques semaines maintenant, peut-être deux dimanches, ce que nous avons débuté ce verset. Et nous avons mis l'emphase, premièrement, c'est « Nous savons ». Du reste, que toutes choses concourent au bien. Et ensuite, une autre semaine, on a dit « Nous savons, du reste, que toutes choses ». Alors, il y a beaucoup de choses que Dieu veut qu'on sache. Dans l'assurance de notre salut, nous savons que Christ est mort sur la croix, nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous savons où d'où ce qu'on s'en va ensemble. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a révélées et il nous dit que toutes choses, ça veut dire toutes choses. On a vu ça également. Ensuite, que toutes choses concourent. En anglais, work together, travaille ensemble, toutes choses concourent. Travaille ensemble le divin et l'humain, la divinité et l'humanité qui travaillent ensemble. Et aujourd'hui, on est rendu, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien. Et on va rester sur cela et Dieu voulant, la prochaine fois, ça va être les deux autres derniers versets que je vais partager de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je ne sais pas, je vais le faire le 8 parce que ça va être à l'extérieur de l'évangélisation. Bon, on va voir qui c'est, mais Dieu va mettre sa main et puis on va être bénis ensemble par sa grâce et par sa force. Amen. Pour aujourd'hui, toutes choses concourent au bien. Et nous venons lire la bonté de Dieu, que Dieu est bon et qu'il est bienfaisant. Et qu'il fait de bonnes choses, toujours de bonnes choses. Et que toutes choses, même les mauvaises choses, même les choses, les tribulations, même les choses difficiles, très difficiles dans nos vies, concourent, travaillent ensemble pour le bien, pour notre bien. Parce que Dieu veut toujours notre bien. Ça ne veut pas dire sur notre bien, ça ne veut pas dire que tout va être parfait. Non, non, non. Mais ça va travailler pour notre bien. Thomas Watson, ça fait une secousse, qui était sa terre, prédicateur, auteur, a dit ceci. Pourquoi un chrétien devrait-il se détruire lui-même? Pourquoi s'accabler de soucis alors que toute chose concourt, oui, même conspire? Pour son bien. J'aime bien ça, la façon qu'il dit ça. Pourquoi s'accabler de soucis alors que toute chose concourt, oui, même conspire pour son bien? Il y a l'histoire d'un fils d'un fermier et travaillait sur la ferme de son père avec son ami. Tous les deux ensemble travaillaient sur la ferme. Et ils terminaient leurs travaux de la journée un jour et entrèrent dans la maison du fermier pour souper avec le papa. Ils écoutaient la radio et qui annonçait la guerre de Corée. La guerre de Corée 1950-1953, c'était la guerre de Corée. Et puis les deux jeunes hommes se sont enrôlés dans l'armée et partant pour la guerre, malheureusement. Le fils du fermier a pilé sur une mine durant la guerre et a été tué sur le coup. Le fermier, naturellement, était absolument dévasté et aussi s'attendait également à transférer la ferme familiale à son fils capable, à son fils qui était capable de le faire. C'est qu'est-ce qu'il avait en tête. Il vivait pour ça. Et son père avait montré peu d'intérêt pour les choses spirituelles. Parce que son fils était un né de nouveau, c'était un chrétien. Puis il parlait à son père de Jésus-Christ, mais son père n'était pas intéressé. Rejetait ça complètement. Mais après la mort de son fils, le fermier a dit, « Avant que mon fils ne soit tué, je ne pensais pas à ces choses. » Mais il a devenu fur et à mesure maintenant a donné son cœur à Christ, il a devenu maintenant un agent de Bible. Il a fait du porte-à-porte pendant longtemps pour vendre des Bibles. Il a devenu membre des Gédéons pour distribuer les Nouveaux Testaments dans les écoles et partout ailleurs. Et il supportait avec une passion les missionnaires. Voyez-vous, maintenant, sa passion et sa raison de vivre n'étaient plus la ferme, mais plutôt maintenant, c'était répandre l'Évangile. Et je dirais que le point culminant qui a changé son esprit, c'est vraiment lorsque il a perdu son fils et qu'il l'a amené à donner sa vie et son cœur au Seigneur. Alors, tout concourt au bien. C'était une bonne chose pour ce père. Lorsqu'Adam et Ève, par exemple, ont péché, une malédiction est tombée sur la race humaine et toutes choses ont fonctionné pour le mal. À cause du chute, toutes choses ont fonctionné pour le mal. En réalité, sans Jésus-Christ, toutes choses encore aujourd'hui fonctionnent pour le mal, si on regarde autour de nous autres. C'est actuellement le contraire de Romains 8, 28, que toutes choses fonctionnent pour le mal. Et encore, Thomas Watson a dit ceci, « Pour ceux qui sont pieux, autrement dit, aujourd'hui, on dirait pour ceux qui sont des chrétiens, pour ceux qui sont pieux, les choses mauvaises travaillent pour le bien. » Pour ceux qui sont méchants, les choses bonnes travaillent pour le mal. Et on voit ça dans le monde. Cela est vrai. Jésus est mort sur la croix pour nous donner cette promesse. Romains 8, 28, qui est le verset central de la Bible qui nous donne un équilibre dans notre vie. C'est Romains 8, 28, et Christ est mort pour nous donner cette merveilleuse promesse que nous avons aujourd'hui. Le Dieu de gloire, voyez-vous, est devenu l'homme de douleur. Le Dieu de gloire est devenu l'agneau immolé. Le Dieu de gloire est devenu blessé, brisé, dédaigné, comme ça nous dit, humilié, frappé de Dieu, pour nos iniquités. Et alors Jésus a tout payé afin que nous pouvons se réjouir ce matin de Romains 8, 28. Pensez-y. Christ a payé afin que nous pouvons se reposer sur Romains 8, 28. Quelqu'un a décrit la main de Dieu, quelqu'un a décrit la providence de Dieu comme la main cachée de Dieu. Absolument. La main cachée de Dieu, parfois c'est vrai. Parfois on voit clairement l'action de Dieu, mais parfois on ne la voit pas. La majorité du temps, on ne la voit pas. C'est la main cachée de Dieu, sa main invisible, voyez-vous, derrière les rideaux de la vie. Il aligne, n'est-ce pas, les circonstances de la vie. Qu'est-ce que nous autres, on peut appeler les circonstances de la vie? Il apporte la victoire des mâchoires de la défaite. Même la défaite, même là où il y a la défaite, frères et sœurs, il y a une victoire à aller chercher, voyez-vous. Dans la défaite, il y a la victoire. Il renverse les tables sur les stratégies du diable. Il supporte le bien et l'emporte sur le mal. Et quoi que nous vivons et nous voyons le mal même à l'intérieur de soi-même, Dieu est là, Christ est là pour renverser cela et pour nous faire du bien. Tout concourt au bien. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Pourquoi que tout concourt au bien? Parce que Dieu est sur son trône. Parce que Dieu est celui qui règne et il assure que toute chose concourt au bien pour ses enfants, pour son Église, pour vous et moi. Ça, frères et sœurs, c'est la providence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça, c'est la providence de Dieu. Maintenant, il y a deux sortes de providence que j'aimerais vous partager ce matin. La providence historique et la providence personnelle. Ces deux choses-là, la providence historique, premièrement. La providence historique est le contrôle de Dieu sur l'histoire humaine. Je veux dire, la main de Dieu est particulièrement sur l'Église, sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Mais il y a aussi une providence historique où Dieu est là et il est là dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, vous allez lire le livre d'Esther dans la Bible et vous allez remarquer dans le livre d'Esther que vous ne trouverez jamais le mot « Dieu ». Il n'y a même pas le mot « Dieu » dans ce livre ou rien à propos de Dieu dans ce livre. D'Esther, l'histoire d'Esther est à propos de la survie du peuple juif durant l'Empire perse qui voulait les annihiler, qui voulait les complètement les détruire les Juifs. Alors, c'est l'histoire qu'est-ce que les Perses voulaient vraiment détruire les Juifs. Le livre d'Esther est une histoire passionnante lorsqu'on voit le courage que Dieu a donné à Esther. On voit l'histoire, une histoire passionnante de la main invisible de Dieu. Quoi qu'on ne voit pas son nom dans le livre, on voit sa main invisible. La façon que Dieu a agi au travail d'Esther. Je vais vous donner un autre exemple. Exemple qui vient du 16e siècle où l'Espagne voulait détruire l'Angleterre parce que l'Angleterre était protestant et puis l'Espagne était catholique et eux autres voulaient détruire les protestants à cette époque-là, tuer la reine Élisabeth, pas la reine Élisabeth aujourd'hui, mais la première. Reine Élisabeth, la première, voulait la détruire. Alors, c'était le roi Philippe II. Le roi Philippe II que vous voyez là, en haut de l'écran. Le roi Philippe II envoya sa marine. Et c'était la marine la plus forte dans le monde entier à cette époque-là. C'était eux autres qui étaient les plus forts sur les océans pour l'invasion de l'Angleterre. Et alors, il a envoyé sa marine. Mais les Espagnols ont été empêchés par une violente tempête. Ce n'était pas les Anglais qui ont eu le dessus sur eux autres, mais c'était juste une violente tempête. Et alors, les navires de l'Espagne, il fallait qu'ils retournent parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont essayé une deuxième fois. Et la deuxième fois, il y a eu une autre tempête. Et à ce moment-là, les navires des Anglais, de l'Angleterre, c'était des plus petits navires. Mais être des plus petits navires, ça avait un avantage parce qu'ils étaient plus rapides, plus maniables. Et puis, les Britanniques ont eu le dessus sur les Espagnols à ce moment-là. Les Espagnols, il fallait qu'ils s'en aillent. Et, croyez-le, troisième fois. La troisième fois, les Espagnols encore ont essayé, et à ce moment-là, les vents ont encore aidé les Britanniques. Et la guerre était perdue pour eux autres. Le capitaine des navires espagnols a informé le roi Philippe, et je cite qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, il a dit ceci, devant son roi. Philippe dit, le capitaine dit à Philippe, le roi, « Dieu sait combien je suis attristé par cette nouvelle à un moment où j'espérais envoyer vos félicitations à votre majesté. Je dirais seulement que cela doit venir de la main du Seigneur qui sait bien ce qu'il fait. Wow! Le capitaine a dit ça à son roi. Il dit, ça doit venir de la main du Seigneur qui sait bien ce qu'il fait. La main invisible de Dieu. Si je peux vous donner un autre exemple qui est un petit peu plus proche de nous autres, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre encore a fait appel à une journée nationale de prière parce que les nazis, les Allemands, prenaient de l'avance sur l'armée de l'Angleterre. L'armée de l'Angleterre était en Europe et puis les nazis prenaient l'avance sur eux autres. Et alors, Winston Churchill, qui était le premier ministre à ce moment-là en Angleterre, avait une stratégie d'évacuer des soldats avec des petits navires, des navires personnels de tout le monde en Angleterre, qui voulaient se rendre volontaires pour le faire et de ramener en Angleterre les soldats qui étaient là, qui étaient pris au milieu d'une bataille. Alors, on nous dit que des milliers de soldats ont été sauvés en traversant la Manche. On appelle ça la Manche. En anglais, c'est « the English Channel » entre l'Europe, la France et l'Angleterre. Et ça s'appelle la Manche. Et puis, il y a beaucoup de bateaux qui ont venu là pour sauver les soldats qui étaient là dans la Manche et pour les sauver de les nazis qui prenaient de l'avance sur eux autres. Mais normalement, à cette époque-là, c'est toujours tempétueux dans le mois de mai, dans la Manche. Vous voyez, le temps de l'évacuation qu'on appelle Dunkirk, l'évacuation Dunkirk, qui est fameux aujourd'hui, du 27 mai au 4 juin. Alors, à cette époque-là, dans ce temps-là, du mois de mai, fin mai, c'était toujours très tempétueux la Manche, le English Channel. Et puis, mais le vent soufflait et soufflait de la mer et soufflait au besoin et soufflait lorsqu'il y avait un besoin et quand qu'ils avaient besoin du vent pour faciliter cette évacuation. Le vent venait juste au bon moment, juste à la bonne situation. Et alors, ils ont pu sauver des milliers de soldats. Et comme avantage supplémentaire, en plus de tout ça, le brouillard. Il y a eu un brouillard épais qui s'est enroulé pour cacher le sauvetage des troupes. Et Winston Churchill l'a décrit comme le miracle de délivrance. Que Dunkirk s'était appelé le miracle de délivrance. Le dimanche suivant, un pasteur d'une église en Angleterre l'a décrit comme the Dunkirk miracle, le miracle de Dunkirk. Ce phénomène a sauvé l'armée britannique et finalement le reste de l'Europe. Ça, frères et sœurs, c'est Dieu. Ça, c'est la providence de Dieu. Ça, c'est la main invisible de Dieu. Et l'histoire nous semble souvent un méli-mélo d'événements. Mais le livre de Daniel proclame ceci, « Le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Alléluia. Alors qu'il y a eu une journée nationale en Angleterre de prière. Et Dieu a répondu. Et Dieu a mis sa main. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et alors, la main de Dieu peut être, frères et sœurs, la main de Dieu peut être invisible, mais elle est omnipotente. Alléluia! Elle est omnipotente, n'importe qu'on la voit ou la voit pas. On peut la ressentir, de savoir que Dieu est là. La providence historique, il y a tellement d'histoires dans ce phénomène de les pays et tout ce qui se passe, même aujourd'hui en Israël, ce tout petit pays avec les ennemis tout autour du pays. Comment est-ce qu'un pays peut subsister? La main invisible de Dieu. C'est lui qui garde Israël aujourd'hui. C'est la providence historique. Et on le voit, n'est-ce pas, de nos propres yeux aujourd'hui dans les nouvelles. Et croyez pas tout ce que les nouvelles vous disent concernant les Palestiniens, puis tout ce qui se passe, parce que Dieu garde Israël. Alléluia. Alors, ça nous amène à la deuxième chose, la providence personnelle. La providence personnelle est la main de Dieu sur la vie de ses enfants, de la vie de son Église, particulièrement, frère et sœur, de votre vie. Êtes-vous content ce matin? Heureux ce matin de votre vie. Le Dieu de la providence historique est le Dieu, le même Dieu de la providence personnelle de votre vie, de ses enfants. Il fait pour nous, sur le plan personnel, sur le plan intime, ce qu'il fait sur le plan global pour l'histoire mondiale. Certains ont appelé cela la main invisible de Dieu sur nos vies. Et j'aimerais vous donner un exemple concernant Fanny Crosby. Et j'ai déjà parlé de Fanny Crosby, je pense, l'année passée ou l'année d'avant, mais je veux citer d'autres choses qu'elle a dit. Fanny Crosby a écrit des milliers de cantiques, OK? Les anglophones, eux autres, dans leur livre de cantiques, il y a des milliers de cantiques qui ont été écrits par Fanny Crosby. Elle a devenu aveugle à l'âge de 6 semaines à cause d'une faute professionnelle d'un médecin. Sa mère lui avait dit à Fanny que parfois Dieu permet un de ses enfants d'être aveugle ou sourd afin de développer autre chose et accomplir les desseins de Dieu. Alors Fanny a accepté cela. Fanny a cru cela et a développé une mémoire phénoménale et a appris la plupart de la Bible par cœur. Wow! Elle a pris la plupart de la Bible par cœur. Et de ce trésor-là de la parole de Dieu a venu un torrent de cantiques inégalés dans l'histoire chrétienne. Il n'y a jamais eu quelqu'un autant que Fanny Crosby qui a écrit tellement de cantiques. On a des cantiques en français aussi qui ont été traduits. Fanny a dit ceci. Écoutez qu'est-ce qu'elle a dit, je cite. Qu'est-ce qu'elle a dit? « Le pauvre médecin qui m'avait rendu aveugle a disparu du quartier. Mais si je pouvais jamais le rencontrer, je lui dirais qu'il m'a fait la plus grande faveur du monde. Pourquoi n'aurais-je pas pu remédier à l'erreur de ce médecin si c'était une erreur? Eh bien, il y a de nombreuses raisons et je vais vous en dire quelques-unes. La première est bien que cela ait pu être une erreur sur le côté du médecin, ce n'était pas une erreur sur le côté de Dieu. C'était son intention que je vive mes jours dans les ténèbres physiques, afin d'être mieux préparé à chanter ses louanges et inciter les autres à le faire. Je n'aurais pas pu écrire des milliers de cantiques, beaucoup dont, si vous me pardonnez de le répéter, sont chantés dans le monde entier. Et on le chante encore aujourd'hui. Alléluia. Voici un des cantiques qui nous dit: All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? J'oublie la tune, mais ça dit: Can I doubt his tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell,
For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well. For I know whatever befall me, Jesus doeth all things well.
Une chance, je l'ai traduit.
Le mieux que je peux.
Ça nous dit, tout le long du chemin, mon Sauveur me conduit. Qu'ai-je à demander de plus? Puis-je douter sa tendre miséricorde, qui à travers la vie a été mon guide, la paix absolue, le confort le plus divin, ici par la foi en lui pour habiter. Car je sais que n'importe ce qui m'arrivera, Jésus fait toutes choses bien. Car je sais que n'importe ce qui m'arrivera, Jésus fait toutes choses bien. Quelle merveilleuse attitude que Fanny Crosby avait. Quelle merveilleuse foi, quelle merveilleuse confiance Fanny avait et qu'elle bénissait son Dieu, son Seigneur pour avoir été aveugle. Alléluia. L'auteur Robert Morgan a dit ceci, Romains 8, 28 est une fleur de grâce qui pousse sur les collines du calvaire. Romains 8, 28 est une fleur de grâce qui pousse sur les collines du calvaire. Christ a payé le prix pour Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il veut votre bien. Ce matin, il est en train de le faire même en vous aujourd'hui. Remercions-le ce matin pour son amour passionnant pour chacun de vous. Et si vous n'avez pas placé votre vie, et si vous n'avez pas placé vos circonstances même, vos situations même aujourd'hui entre ses mains, je vous invite à le faire. Dès aujourd'hui, comme Fanny Crosby l'a fait, et de savoir que tout concourt au bien. Alléluia. Des fois, on a des questions, n'est-ce pas? Puis on dit, quel bien qui peut sortir de ça? C'est quoi le bien dans ça? C'est mal, ça n'a pas de sens. Mais si on a placé nos vies entre ses mains, toutes choses concourent au bien. Le croyez-vous ce matin? Amen. Toutes choses concourent bien. Je vais demander à l'équipe d'avancer, s'il vous plaît, Solange et Frank, de venir et terminer avec un chant ce matin de louange et qu'on puisse juste être là pour remercier le Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans chacune de nos vies. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, on veut te bénir et te remercier ce matin pour qui tu es. On te remercie que tu as un plan, Seigneur, que tu es omnipotent sur le plan historique, sur l'histoire de l'homme, mais aussi sur le plan personnel. Pour chacun de nous, Seigneur, tu es là. Et Seigneur, tu es vraiment un Dieu personnel. Et quoique on se dit des fois, comment est-ce que le Seigneur peut se soucier tellement de chaque individu, mais c'est qu'est-ce qui a été jusqu'à la croix du calvaire pour chacun de nous. C'est sa grâce qui nous bénit et qui nous remplit. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants envers toi ce matin. Aide-nous, Seigneur, à juste te remercier, avoir un cœur rempli ce matin d'actions de grâce. Et n'importe qu'est-ce que vous passez ce matin, vous savez, il y a des gens parmi nous, je pense à Lucien Lafontaine présentement, qui passe un temps tellement difficile. Je sais que la grâce de Dieu est là pour lui. Je sais qu'il y a le Romains 8, 28 qui est là pour lui, que c'est une fleur qui pousse dans les collines du calvaire pour Lucien. Et pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont de la peine parmi nous, pour ceux qui ont de la misère parmi nous, pour ceux qui sont malades parmi nous, faites confiance au Seigneur parce qu'il veut vous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Son ange vient et remercions-le ensemble. Levons-nous ensemble pour le bénir ce matin et l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia.